aujourd'hui, je vais faire un peu de teasing parce qu'on reçoit quand même, on reçoit quand même Lambert Santé. Il dit, bon, tout le monde le sait parce qu'on m'a appelé ce week-end. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qui va se passer et tout? C'est Lambert Santé qui nous fait l'honneur de venir. Lambert, comment ça va?
Ça va, super.
Alors, je vais rapprocher un petit peu le micro, sinon on ne va pas t'entendre. Alors, avant d'aborder cette interview, on va vite faire un rapide tour d'horizon de ce qui se passe le 12 décembre. C'est le jour de la Bruyère, c'est le végétal, pas l'auteur, hein, on est d'accord. Le 12 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? En 1622, Richelieu devient cardinal. En 1963, le Kenya devient indépendant. En 1969, c'est l'attentat à Piazza Fontana à Milan. C'est les Brigades Rouges et l'entrée dans les années de plomb en Italie. En 2000, c'est l'élection de George Walker Bush suite à une décision de la Cour suprême des États-Unis. Il devient vainqueur de la présidentielle. En 2008, l'arrestation de Bernard Madoff. Ouais, toujours. Il est mort, lui, je crois. Hein,
je crois.
Ouais,
oui.
Hein. Ouais. En 2021, la Nouvelle-Calédonie rejette son indépendance. C'était le dernier référendum prévu par les accords de Nouméa, qui est un référendum qui avait été boycotté l'année dernière par les indépendantistes calédoniens. En 1913, la Joconde, volée 2 ans auparavant, avait été retrouvée à Florence. Donc, je ne savais la Joconde avait été volée.
Si, si.
En 1999, le drame, le naufrage du pétrolier Erika, hein, qui avait empoutillé les côtes bretonnes.
Quelle pollution.
En 2004, le TGV devient entièrement fumeur. Alors, c'est bizarre parce que la loi est passée en 99 en plus, anti-tabac. Donc, c'est assez bizarre quand même qu'ils aient mis 5 ans. C'est au prorata du retard qu'ils ont généralement les TGV aussi et la SNCF. Mmh. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la neutralité au service de la paix. Bernard-Henri Lévy sera enfermé 24 heures dans sa chambre.
Hein, le pauvre.
le pauvre, pas pour tout le monde.
Non.
Fête nationale du Kenya aujourd'hui. Et c'est la Saint-Corentin, Coralie, Corinne et Israël. Donc si vous voulez souhaiter une bonne fête à ces personnes qui portent ce prénom, n'hésitez pas. Les demi-finales de la Coupe du Monde, Croatie-Argentine demain soir et Maroc-France mercredi. On rappelle que le record d'audience en France a été battu pour un quart de finale de Coupe du Monde. Il datait de 2006 avec ce France-Brésil.
Et là, 17 millions.
Exactement. Donc finalement, la cause LGBT, les milliers de travailleurs morts, le non-sens écologique et l'attribution frauduleuse de ce tournoi ne pèse pas grand-chose face à un bon parcours de l'équipe de France.
On fête aujourd'hui aussi l'anniversaire à Berkoff. André Berkoff.
Je connais pas.
Ah, animateur sur Sud Radio. Ah. Et aussi à la télé.
Ah, il y a aussi l'anniversaire de Tal.
Ouais.
De Franck Provost. Alors bon, ça me concerne plus trop.
Dionne Warwick.
De Gustave Flaubert, qui était né un 12 décembre. Frank Sinatra aussi. Et Manu Dibango, pour les amateurs de musique.
Ah, il y en a plein. Hein.
Aujourd'hui, chers auditeurs, je sais que vous l'attendez avec impatience. C'est l'interview de Lambert. Lambert Santé. Alors, on va se tutoyer, si tu me le permets.
Bien sûr.
Tout d'abord, merci de venir à la radio. Face à toi, tu es un néophyte. La dernière fois que j'ai couru, moi, personnellement, c'était derrière le bus en 99 pour rejoindre le lycée de Balagne. Mais bon, on va essayer
jamais trop tard pour s'y mettre.
D'être pertinent.
Pour s'y remettre.
Alors, la première question, avant tout, c'est la question que je pose un petit peu à tous les invités. C'est quel type d'enfant, quel type d'élève tu étais? Est-ce qu'on pressentait déjà une petite aptitude à cette activité? Quel est le trail?
Enfant, moi j'ai toujours aptitude à cette activité, je sais pas, mais du moins j'ai toujours été dehors à la campagne, au village où on était 7 ou 8 enfants de la même génération. Donc on passait nos journées à courir dans le village, à droite, à gauche, à jouer, puis après aller à la chasse avec mon père, les bêtes, on a toujours eu des vaches, des moutons, donc une enfance, on va dire, comme beaucoup dans les villages, mais enfin du moins à notre époque maintenant.
Oui.
Maintenant c'est plus c'est plus écran, téléphone, tout ça, dans ma génération c'était pas du tout ça.
Alors, on va essayer d'aborder un petit peu. Alors moi, je suis vraiment néophyte. On voudrait peut-être savoir un petit peu plus sur le quotidien d'un sportif de haut niveau et comment tu arrives à conjuguer finalement le travail et la vie de famille, parce que tu as 2 enfants. Savoir comment ça se passe. Une semaine peut-être lambda ou une journée lambda pour un champion de ton rang.
Bon, après, c'est pas enfin, je m'entraîne pas de la même façon tout au long de l'année, suivant les objectifs. Il y a des périodes où je m'entraîne beaucoup plus, et puis des périodes plus tranquilles. Là, à l'heure actuelle, voilà, c'est entre 10 et 12 heures d'entraînement hebdomadaire. On va dire c'est des semaines assez tranquilles. Et puis après, il y a des semaines où quand je prépare des courses assez longues, jusqu'à 25-30 heures d'entraînement. Après, voilà, l'organisation, c'est... J'ai la chance d'avoir une épouse qui gère beaucoup de choses et qui assume pas mal de tâches à la maison avec les enfants. Mais bon, ouais, voilà, c'est toujours une question d'organisation et on arrive à s'organiser. Enfin, moi, je tiens à profiter de mes enfants, à les voir grandir. Et le sport, c'est vraiment une chose importante, mais ça passe au second rang, quoi. La chose la plus importante, c'est la famille, les enfants... Et le travail, bien sûr.
Alors, on va justement, parce qu'on arrive dans une période où on en a parlé, hein, ben, finalement, on a parlé par rapport aux enfants, les réseaux sociaux, les écrans, tout ça. Aujourd'hui, toi, tu es obligé un petit peu de t'y plier. C'est quoi ? C'est un travail. Qui c'est qui s'occupe un petit peu des réseaux pour toi ? Est-ce que c'est toi qui arrives un peu à fournir les réseaux sociaux, Insta, Facebook, ou quelqu'un s'en occupe ?
Non, c'est moi qui... Après, si tu veux, j'ai jamais voulu rentrer dans le jeu des marques, des sponsors, tout ça. Voilà, je suis 100% libre là-dessus, j'ai pas de sponsor et j'en veux pas. Parce que voilà, je peux subvenir à mes besoins, à mes voyages, quand je veux faire une course, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'après, voilà, si j'étais affilié à certaines marques, tout ça, maintenant c'est ça, et tout se passe par la communication, les réseaux sociaux, et voilà, et c'est pour cette raison-là que j'ai jamais voulu.
C'est ça qui te permet d'avoir une certaine liberté, si tu as envie de poster quelque chose et tout, tu n'es pas obligé par le sponsor de hashtag.
Voilà, après, autant pendant un mois, je ne mets aucune publication, et puis après j'en mets 3 d'affilée parce que ça me fait plaisir, parce que je suis en montagne, il y a un beau paysage et j'ai envie de partager une belle photo ou un truc comme ça. Mais voilà, j'ai aucune obligation à ce niveau-là et c'est bien comme ça.
Alors, par rapport justement au réseau, est-ce que par rapport au record effectué sur le GR, est-ce que tu as eu un afflux massif de gens qui sont venus te suivre sur les réseaux, tu l'as ressenti ou finalement pas tant que ça?
Oui, quand même, j'ai eu beaucoup d'abonnés subitement sur Insta. Bon, après, bon, ça fait plaisir, mais bon, ça reste virtuel. Ça me fait doucement rire. C'est bien, mais il faut pas. J'y prête pas plus d'attention, on va dire.
Au niveau des performances, est-ce que, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, demande-lui, est-ce que l'insularité, finalement, c'est un atout ou un frein à tes performances ? Alors, on sait que le GR, c'est un terrain qui est prisé. Alors, on ne fait peut-être pas pour les bonnes raisons, j'ai l'impression, des fois, j'ai l'impression qu'on veut juste dire j'ai fait le GR plutôt que de profiter un petit peu du cadre. Est-ce que l'insularité est un frein ou pas aux bonnes performances ?
Un frein non, parce que on a tout pour s'entraîner ici. Voilà, il y a des infrastructures maintenant, même ici en Balagne, on a la chance d'avoir un complexe avec une piscine. Il nous manquerait une piste d'athlétisme, ça serait bien, une école d'athlétisme en Balagne, ça serait quelque chose de magnifique, parce que voilà, je vois à Bastia, à Ajaccio, il y a des écoles d'athlétisme et il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants.
Il était prévu, hein, fut un temps, ouais. Au complexe, il y a un stade. Et une piste d'athlète.
J'espère que ça se fera dans les années à venir. Donc, un frein, non. Après, c'est sûr que voilà, ce qui est un peu limitant, c'est que dès qu'on veut faire une course ou se confronter à un certain niveau, on est obligé de partir, de prendre l'avion, le bateau. Donc voilà, c'est la seule petite contrainte. Mais bon, on a tellement d'avantages à être ici que c'est pas bien.
Et puis on peut s'entraîner toute l'année.
Et on peut s'entraîner toute l'année. Voilà, moi là encore, j'ai fait une heure de vélo ce matin. On est mi-décembre. Et voilà, on a un temps magnifique. Voilà, j'ai pu aller rouler dehors alors que voilà, j'ai des copains sur le continent qui ne peuvent pas rouler pendant 6 mois de l'année, quoi.
Alors, on a abordé ça en off. La santé, on sait que c'est le trail ou l'ultra, c'est un sport très intense. Quel est le suivi? Est-ce que tu gardes en tête, puisque c'est un sport qui est relativement jeune, d'éventuels risques liés à l'intensité justement de cette discipline?
Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est un sport sur lequel on a peu de recul parce que c'est une pratique assez jeune, entre guillemets, l'ultra. Donc voilà, on ne sait pas encore vraiment comment vieillit un ultra-trailer. Donc voilà, après, bien sûr, je pense avant tout à ma santé et à vieillir dans de bonnes conditions. Donc j'ai un suivi médical, voilà, je vois mon médecin assez régulièrement, kiné, ostéo, et voilà, on essaye de faire, après une bonne hygiène de vie au quotidien, je pense que c'est important.
C'est primordial, bon, ça c'est
primordial encore plus quand on fait énormément de sport. Donc voilà, il y a plein de choses on essaye de faire au mieux pour vieillir correctement, on va dire.
Alors, c'est un sport individuel, mais est-ce qu'il existe réellement une fraternité entre les différents concurrents? Parce qu'au fait, finalement, ce monde et l'ambiance entre les trailers, à part si on est dedans, on ne le connaît pas trop. Est-ce qu'il y a une certaine fraternité ou finalement on est un petit peu tout seul dans ce monde-là?
Non, c'est vraiment un sport... C'est rare qu'on fasse des... Enfin, après, oui, on s'entraîne tout seul, mais on partage souvent des sorties avec les amis, des longues heures en montagne, passer avec des copains, tout ça. Et puis même sur les courses, enfin, encore plus chez nous, parce qu'on est, on est peu nombreux, au final, à pratiquer ce sport. Donc, on se connaît tous et on s'apprécie tous. Après, bien sûr que quand on fait une course, c'est pour donner le meilleur de nous-mêmes et... Voilà, quand on fait une compète, c'est pour passer devant l'autre. Hein. Ça, il ne faut pas se le cacher, il faut se voiler la face. Mais il y a vraiment une amitié. Et... Voilà, moi, j'ai énormément d'amis dans ce milieu-là.
Et puis, quand ils viennent s'entraîner, je pense que la Corse doit être un terrain d'entraînement pour les trailers du continent. Le passage obligé, c'est venir te voir, te proposer une petite session ou finalement des fois ça se passe pas comme ça?
Non, bon, pas tous, mais oui, après j'ai pas mal de copains quand ils viennent qui m'appellent et on essaie de se faire une sortie ensemble, que ce soit sur le GR ou ailleurs. Mais après oui, c'est vrai que y a quelques-uns qui la
jouent solitaire.
Oui, aussi. Ouais.
Ils veulent pas tout montrer. Question bête, à 2 ans des JO, est-ce que tu n'as jamais eu la tentation de passer sur route ou de passer sur le marathon ou du fond, mais quelque part avec une possibilité de basculer sur des épreuves comme des JO ou des championnats de France?
Non, après, bon, j'ai pas le. Enfin, la route, ça ne m'a jamais attiré plus que ça. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est passer des heures en montagne, dans un élément où je me sens à l'aise. Et... Donc non, la route, ce n'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Après, voilà, faire un marathon, je n'ai jamais fait de marathon. Je pense que j'en ferai une fois, un marathon mythique, peut-être New York. Ou voilà, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas... Enfin, je le ferai pour dire que je l'ai fait, mais...
Ce n'est pas un objectif en soi, quoi.
Non.
On va parler de ce fameux record du GR. Localement, ça a été la folie. C'était en début de saison, en plus. Moi, je travaillais. Les gens me demandaient, il en est où? On allait sur les réseaux, regardait un petit peu. Une forte émulation autour de toi. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des lièvres. Je ne sais pas comment on appelle.
Oui, bon.
Des copains d'infortune. Moi, je dirais de mon prisme à moi. Hein, parce que je trouve ça vraiment incroyable. Est-ce que tu as conscience que tu es devenu une sorte de porte-drapeau en générant cet engouement et une certaine attente, même de la part des Corses, en remportant ce record, en le battant et de fort belle manière en plus?
Oui, après, c'est vrai que ça faisait quelques années que le record était détenu par un non-Corse, on va dire. Et souvent les gens sur les courses, bon alors c'est quand que donc tu vas, c'est quand que tu le fais, donc il y avait une certaine attente. Après moi voilà, je l'avais vécu avec Guillaume en 2014 quand Guillaume Perret avait battu le record de Kylian à l'époque. c'était quelque chose de, enfin, c'était monstrueux. Moi, j'avais vécu la préparation avec Guillaume, la course, le record. Et voilà, je m'étais dit, si un jour je suis en mesure de le faire, je le ferai. Et je tenais à le faire comme je l'ai fait, à le partager, que ce soit quelque chose de, voilà, comme c'est mon nom, on retient mon nom à la fin. Voilà, c'est Lambert Santil qui a fait 30h25, qui a battu le record. Mais c'était tout un collectif, en fait. On était, il y a eu 30-40 copains qui ont couru avec moi tout au long du parcours, et autant de personnes en plus qui étaient là pour toutes les ravitaillements, enfin toute l'assistance autour. Donc c'était vraiment un collectif, une équipe, et on a vécu ça tous ensemble. Et bon, avec la réussite qu'on connaît à la fin, donc c'était magique.
Alors, magique, mais au-delà du GR, parce qu'on est chauvin, bien sûr, est-ce qu'il y a une course, hormis le GR, que tu aimerais accrocher ou que tu as déjà accroché à ton palmarès, une vraiment où tu te dis, celle-là, je vais essayer de la remporter, ou une qui, comme tu y es, tu ressens quelque chose de particulier?
Oui, ben cette course, c'est la Réunion, c'est le Grand Raid. Maintenant, ça fait 3 ans d'affilée que j'y vais. La première année, j'avais gagné le Trail du Bourbon, qui est là, en fait, à la Réunion, il y a 3 courses la même semaine. Alors, il y a le 170 km, c'est la course Rennes, c'est le Grand Raid. Il y a le Trail du Bourbon, c'est un 110 km, et il y a la Mascarene, 70. Il y a 3 courses, et j'avais gagné donc la première année le Bourbon. Et là, ça fait 2 ans de suite que je fais le grand raid. Et bon, ça se passe pas trop bien.
Là, petit problème au genou.
Ouais, la première année, je me suis blessé. Et cette année, j'ai abandonné, épuisé à un peu plus de la moitié. Bon, après, c'est une course qui tombe assez mal, on va dire, pour moi, parce que c'est juste après la saison au resto. Et c'est vrai que cette année, fin septembre, on a fermé un peu plus tard, mi-octobre, juste avant de partir à la Réunion, quand on a fermé, j'étais un peu épuisé de la saison, quoi, de la saison et puis de l'entraînement.
Et on le ressent, ça, quand ça va mal se passer, parce que des fois, il peut avoir, on peut être surpris de ses performances, et puis d'autres fois, on peut se dire, je la sens pas. Est-ce que ça arrive
Oui, non, c'est sûr que j'étais pas dans mes meilleures dispositions pour partir là-bas cette année, mais bon, après, voilà. C'est comme ça, ça tombe en octobre et ça tombera toujours en octobre, ils ne vont pas changer la date pour moi, donc j'essaierai de m'adapter. Je ne sais pas si j'y retournerai, c'est sûr, je ne sais pas si j'y retournerai en 2023, peut-être je laisserai passer une année et j'y retournerai en 2024, on verra. Mais c'est sûr que c'est une course qui me fait rêver parce que c'est un parcours qui me correspond, c'est un parcours très technique, assez difficile, donc voilà, c'est... Et puis l'ambiance là-bas, c'est magique. La Réunion, c'est vraiment quelque chose.
Des insulaires aussi, bizarrement.
Des insulaires aussi, voilà, on s'y retrouve.
On va parler, ce n'est pas une question qui fâche, mais la durée de vie d'un trailer de haut niveau, est-ce que c'est un sport où on peut durer? Alors, je vais dire peut-être les plus et les moins. C'est peut-être plus on vieillit, plus on connaît son corps, l'expérience, c'est un atout. Et la deuxième question imbriquée, c'est est-ce qu'un très jeune coureur pourrait rivaliser avec les meilleurs, sans l'expérience, sans toutes ces choses que vous acquérissez, que l'on acquérit au fil du temps?
Mais il y a 10 ans de ça, on aurait dit que voilà, ceux qui gagnaient les ultras, c'était des mecs de 35, 40 ans, pas, il n'y avait pas plus jeune de ceux qui gagnaient. Maintenant, ça a pas mal évolué parce que les jeunes s'entraînent fort de plus en plus jeunes, et maintenant, il y a des top coureurs en ultra trail qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont peu d'expérience, mais au final, qui se sont entraînés pour ça dès le plus jeune âge. Alors après, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, ça, encore une fois, on n'a pas assez de recul pour le dire, on verra d'ici 20 ans ou 30 ans. Mais oui, après, c'est sûr que au fil des années, tu acquiers de l'expérience et tu connais ton corps. Alors même si peut-être tu es un petit peu moins performant, tu as un petit peu moins de force, mais tu as cette expérience en plus, donc l'un dans l'autre.
Justement, puisque là il y a pas un passage de relais, mais finalement tu vois arriver tous ces jeunes sur les courses, est-ce qu'il y a un conflit de génération? Est-ce qu'ils sont différents de vous? Est-ce qu'ils ont une attitude? Est-ce qu'ils y vont pour la gagne, ou ça maintient encore cet esprit trail?
Non, l'esprit trail, il est toujours. Après, bien sûr, ils y vont pour la gagne, mais comme nous, on y va aussi pour la gagne. Donc, il y a... Voilà, mais après, ça fait plaisir de voir des jeunes. Moi, je... Alors, hier soir, je discutais avec Guillaume Perret. Il a fait la course qu'il y avait à Bastia, la Spasidiate. Le deuxième, c'est un petit jeune, il a 15 ans. Et il me dit, je me suis régalé. Il me dit, j'ai couru pendant une demi-heure avec lui. Enfin, c'est une machine, il a 15 ans. Mais c'est génial de voir des jeunes comme ça. Enfin, surtout que... Il y en a peu, c'est ça.
Ouais.
Et au final, il n'y a pas énormément de jeunes qui se donnent à fond comme ça dans le sport. Donc non, moi, ça me fait plaisir et j'encourage les jeunes à courir ou à faire tout autre sport, mais à faire du sport, parce que voilà, le sport, c'est la vie.
Alors justement, le passage de relais, parce qu'à un moment donné, est-ce que tu te sens investi d'une responsabilité vis-à-vis des jeunes insulaires, comme ce petit jeune de 15 ans qui performe? Une envie de transmettre aussi, faut l'avoir. Et est-ce que, ouais, je sais qu'il y a Francesco de Lumio qui voulait faire le Mont Blanc à un moment donné. Est-ce que tu es là, tu te sens investi de quelque chose? Est-ce que tu as envie de les accompagner? Est-ce que tu les aides? Ou finalement, ton activité pour l'instant t'empêche un peu de pouvoir les accompagner?
Non, je n'ai pas une activité qui m'empêche quoi que ce soit. Après, voilà, quand je peux participer à certaines choses pour pousser les jeunes à faire du sport et à montrer l'exemple et à leur expliquer certaines choses, je le fais avec grand plaisir.
Alors, est-ce qu'ils écoutent ?
Oui, ils se sentent... Enfin, du moins, ceux qui aiment ça, et ils écoutent. Enfin, après, voilà, je ne suis pas non plus un entraîneur, un coach, quoi que ce soit, mais... Ça fait plaisir quand il y a certains gamins qui te disent qu'ils ont suivi quand j'ai fait le GR ou une autre course et que ça leur a donné envie de courir ou de faire ce sport. Hein. Voilà, donc, non, c'est...
On est en pleine Coupe du Monde. Alors on sait que, notamment en Corse, hein, le ballon c'est le sport roi, le foot. Y a des sommes astronomiques qui... surtout au niveau des salaires, dans ce milieu-là, est-ce qu'on en vit du trail ou pas ?
Non, on ne vit pas du trail, enfin du moins pas moi. Après, il y a quelques athlètes qui en vivent, voilà, des marques, des sponsors, de la communication, des réseaux sociaux. Certains ont fait des chaînes YouTube, des sites et là, mais voilà, ils sont très peu, ça se compte... Je sais pas, s'il y a 15-20 athlètes dans le monde qui arrivent à vivre du trail, c'est à tout casser, quoi. Donc c'est pas un sport où il y a de l'argent pour l'instant, et de mon point de vue c'est bien comme ça, parce que ça reste vraiment un sport de passionné, quoi.
Donc ça permet d'éviter peut-être aussi les dérives finalement. On le voit avec cette Coupe du Monde et puis tout ce qu'il y a un petit peu autour. Est-ce que tu la suis? Question bête finalement.
Oui, bien sûr. Ouais. J'aime le sport. J'aime quasiment tous les sports, donc bien sûr je suis la Coupe du Monde et ouais, j'aime le beau jeu, j'aime les beaux athlètes, donc bien sûr.
Alors, et deux petites dernières questions, après on passera vite aux questions flash, un petit questionnaire de Proust. Quand on a un record comme celui du GR, on a parlé en off, mais est-ce qu'inconsciemment on espère malgré tout le garder le plus longtemps possible? Voilà. Est-ce que quand il y en a un qui va déclarer, est-ce que déjà il y en a qui t'ont dit qu'ils avaient pour objectif d'essayer de le battre? Et si on te l'a dit, ou s'il y en a qui ont l'espoir de venir sur tes terres, venir prendre ton record, est-ce que tu vois ça dans mon œil? Allez, soyons honnêtes.
Non, après, je sais qu'il y a au moins, enfin, il y a une personne, il y a un athlète, un très bon coureur qui est intéressé par ce parcours et qui voudrait le faire un jour. Après, quand est-ce qu'il le fera, je ne sais pas, mais... Je sais qu'il y a une personne, du moins, peut-être plus, mais une personne qui est très intéressée par ça. Après, est-ce que j'espère le garder le plus longtemps possible? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que voilà, c'est quelque chose qui a été préparé pendant de longues années. Puis c'est, encore une fois, c'est toute une équipe, c'est tout un collectif, c'est pas que moi. Donc, bien sûr, j'ai envie qu'on le garde. Mais après, bon, c'est le jeu. Les records, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour tomber. Ils sont faits pour être battus. Donc, bonne chance à celui qui viendra.
Et... Une question bête. Est-ce que tu as dans l'idée...
C'est pas François qui va faire
Alors moi non, moi j'ai dans l'intention de le record du type qui l'a fait le plus longtemps. Alors, moi je pense que ce sera à peu près 6 mois. Non, est-ce que tu as envie de revivre ça sur le GR et essayer peut-être éventuellement de battre ton propre record? Ou finalement non, tu passes à autre chose.
Moi, je pense pas y retourner parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a fait comme j'avais envie de le faire, ça s'est bien passé. Mais je pense qu'il y aurait pas de, enfin, ce serait pas une bonne chose de le refaire. Par contre, je le revivrais volontiers avec un copain ou même une copine, parce que voilà, il y a une fille en Corse qui monte très fort depuis quelques années.
Il n'y a pas eu un article récemment.
Il y a eu un article, voilà. C'est Julie Marine, qui est une très très forte fille, et je pense qu'elle aura les capacités, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les années à venir, je pense qu'elle aura les capacités de tenter quelque chose. Donc voilà, peut-être avec elle, ou alors avec Noël Giordano, qui est mon ami et qui est un jeune pareil qui a commencé un peu plus tard que moi, mais qui a des grosses grosses capacités. Donc voilà, pourquoi pas le revivre avec Noël ou Julie dans les années à venir.
Question bête à refaire, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux? Est-ce qu'il y a eu des petits endroits où tu te dis j'aurais pu encore gagner quelques minutes, ou finalement non, tu étais au taquet tout le long et tu as fait vraiment le max?
Oui, après,
quand on y réfléchit.
J'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné, mais je pense que ça aurait été faisable de passer sous les 30 heures. J'y étais pendant un moment donné. J'étais dans les temps pour faire moins de 30 heures jusqu'au tiers du parcours. Après, sur le dernier tiers, j'ai bien coincé. J'ai perdu pas mal de temps. Mais bon, après, est-ce que...
C'est dû à quoi? La chaleur
C'est dû à plein de choses qui font que, voilà, au bout de 100 km, ben, on en a... Ça devient dur. Ça devient dur et on va moins vite, quoi. Mais bon, après, voilà, je pense que j'ai tout donné. Et... après, si on dit, ah, tiens, si j'avais fait comme ça, peut-être que... Mais bon... Je sais pas si...
On va aborder alors les questions flash, c'est un rapide questionnaire de Proust, après on va te libérer. Je rappelle aux auditeurs quand même que c'est bientôt Noël et qu'on va faire gagner des cadeaux de Noël aux auditeurs. Donc aujourd'hui, ouais, c'est François Noël. Aujourd'hui, c'est un bon de tatouage d'un montant de 80 euros. Alors c'est pas mal. On remercie Pascal Aquavive et le salon All Tattoo d'ailleurs. De nous avoir gentiment offert 3 bons de tatouage, puisqu'il y en aura 2 autres qui seront gagnés dans les prochains jours. Alors, les questions flash, vite fait. Si tu étais un trait de caractère, quel serait-il?
Un trait de caractère, pugnacité.
Un défaut.
J'en ai pas.
Ah.
non.
La modestie.
Non, un défaut... Un défaut. Un peu jaloux.
Ah! Un animal. Est-ce que tu as un animal totem, un animal qui te. Vraiment, qui pourrait te définir ou...
Écoute, le mouflon peut-être.
Le mouflon? D'ailleurs, oui, parce que souvent dans le sport, les gens ont des surnoms. Est-ce que tu en as un dans le milieu du trail ou.
Non. Non, bon, quelques-uns qui vont appeler le mouflon, mais.
Et ça s'arrête là. Est-ce que tu as un héros de fiction et de vie réelle qui te suit depuis ta plus tendre enfance, ou ça peut être un personnage de BD, ça peut être n'importe quoi?
Non, pas plus que ça.
Non. Ce que tu détestes le plus chez l'homme?
Ce que je déteste le plus chez l'homme. Comment dire, d'être prétentieux, tu vois, trop de
roulades,
voilà.
Une phobie, est-ce que tu en as une?
Les araignées.
Est-ce que tu as Alors, on sait que dans le monde du sport, les gens sont assez superstitieux, bon, surtout dans le football. Mais est-ce que tu as un objet fétiche, quelque chose que tu gardes sur toi quand tu vas faire une course ou quelque chose qui te suit tout le temps, même dans tes déplacements?
Non, je ne suis pas trop...
Pas trop sujet à ça?
Non. Après, voilà, mes enfants, j'aime avoir mes enfants, ma famille proche qui me suivent, mais...
La chose dont tu es le plus fier?
Mes enfants.
Une petite insulte qui revient régulièrement quand ça va pas ou quoi que ce soit. Alors tu peux le dire ici, on est en libre antenne, on va pas se faire disputer. Un mot doux que tu sors régulièrement.
Quel con, pourquoi j'ai fait ça?
On se le dit sur une course, on se dit putain.
Oh, putain.
Ouais. Non, ça c'est intéressant à se dire pour ceux qui se lancent et qui au bout du premier kilomètre, bah, comme moi, si je me lance dans la course au bout de 500 mètres, je vais me dire putain, voilà.
Je vais comme Lambert Santé.
Un champion de haut niveau, voilà, rassurez-vous, un champion de très haut niveau se dit par moment.
Comme disait Lambert
Santé. Ça arrive pendant une course de se dire pourquoi je me suis lancé là-dedans.
Ah oui, ben oui.
Ouais.
Après tu t'es dit mais je l'ai voulu quand même. Il y a personne qui m'a forcé.
Oui, c'est ça le pire. Si tu pouvais parler au petit garçon qui était à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
À 10 ans. Non,
Est-ce que déjà il s'imaginait à ce destin-là? Est-ce qu'il imaginait à un moment donné
Non, je pense qu'à 10 ans, tu...
Le petit Lambert, quand il avait 10 ans, il rêvait de quoi?
Je rêvais de... Oui, après, je te dis, comme, encore une fois, j'ai toujours été dehors, toujours une vie tournée vers la montagne, la campagne, tout ça. Mais après, je rêvais plus de... Pas tellement de sport, on va dire, à cet âge-là. Donc, voilà. Peut-être en faire plus à jeune, parce que j'ai commencé sur le tard, finalement.
Ouais.
Donc, voilà, plus tourner vers le sport jeune, ça aurait été peut-être encore mieux. Quoi.
Chers auditeurs, on va faire une petite coupure musicale avant le bon à faire gagner, le bon de tatouage. Lambert, merci beaucoup. Je sais que, en tout cas, l'interview a été vraiment très attendue de la part des auditeurs d'RCC. Dès qu'on a envoyé ça sur les réseaux, ça a été frénétique.
Une explosion.
J'ai reçu des messages sur Messenger. Et dis-lui ça.